Et bonjour les amis, bienvenue sur ce nouvel épisode de Burger Ring. Burger Ring, le podcast le plus gras et le plus protéiné du game. Mais papacito, pourquoi il n'y a pas eu de Burger Ring la semaine dernière? Mais parce que je l'ai dit 30 fois, il n'y a pas de Burger Ring les jours où sortent des vidéos. Comme ça, vous avez du contenu chaque semaine. Il n'est pas forcément sur le podcast Burger Ring. Le dimanche dernier, donc, c'était la sortie de la vidéo que nous avons faite avec le Raptor sur sa chaîne. Donc, quand c'est comme ça, vous avez 3 heures de vidéo. Je ne sors pas de podcast. Je sors les podcasts, en général, les dimanches où il n'y a pas de sortie vidéo. Comme ça, ça vous fait toujours un petit truc à écouter. Donc voilà, les amis. Et dimanche prochain, il y aura un podcast puisque je n'ai pas de vidéo prévue. Voilà. Voilà, les amis. Donc, pas d'inquiétude. Les semaines où vous n'avez pas de vidéo, c'est tout simplement qu'il y a un support vidéo sur ma chaîne ou une autre chaîne qui est sorti. De sorte que vous avez toujours un petit peu de papacitade le dimanche ou le lundi. Quoi qu'il arrive. Voilà, les amis. Alors, aujourd'hui, on va aborder un thème qui a été assez brillamment abordé par le Raptor, de suite après que ce sujet soit devenu médiatique, c'est le fameux salut polémique, le salut polémique de Elon Musk. Voilà, donc il y a eu tout un battage médiatique autour de ça, il y a beaucoup de choses à dire, le Raptor a dit énormément de choses très intéressantes là-dessus, je voulais à mon tour le commenter, donc il n'y avait pas de podcast la semaine dernière, donc cette semaine je vais pouvoir le faire dans ce podcast, et ça me permettra d'aborder plusieurs sujets en ouvrant celui-ci, vous savez comment je fonctionne, j'ai un esprit à tiroir, donc une idée en ouvre un, qui en ouvre encore un autre de tiroir, et donc du coup c'est toujours le bordel, pas possible, mais... c'est systématiquement quand même des choses intéressantes puisque vous revenez. Voilà, si c'était pas intéressant, vous ne reviendrez pas. J'ai les statistiques. Les podcasts ne cessent de toucher un public nouveau. Donc, je suis très heureux et merci pour ceux qui partagent. C'est génial. Ça me permet de parler à toujours plus de monde. Alors, les amis, aujourd'hui, on va aborder le fameux salut de Elon Musk. Le salut qui prétendument serait un salut nazi. Alors, bon, déjà... Il faut savoir plusieurs choses. Alors déjà, je vais mettre fin, en tout cas, en ce qui me concerne, aux doutes et aux questions que vous pourriez avoir pour savoir ce que je pense de ça. Je ne pense évidemment pas que c'est un salut nazi, il faut pas déconner. Ça y ressemble, effectivement. Les gens qui disent non, ça ressemble pas exactement, mais évidemment que ça y ressemble beaucoup. Mais pour expliquer ce geste, il suffit juste de se pencher 2 minutes sur la figure d'Elon Musk. Et je vais vous démontrer, comme je l'ai fait avec Jean-Marie Le Pen, que, encore une fois, vous avez des médias qui sont complètement hystériques et qui traitent les informations selon leurs idées politiques et non pas avec l'objectivité qu'ils sont censés avoir. Voilà. Elon Musk est clairement un individu hors norme, même sans parler de son autisme, dont on ne connaît d'ailleurs pas l'étendue, hein. Il y a un autisme par autiste. Il y a des autismes qui sont plus ou moins graves, plus ou moins incapacitants. Il y a des autismes qui donnent lieu à du génie pur. C'est le cas, par exemple, de Steven Spielberg. Et des autismes qui sont totalement incapacitants et qui font que les personnes vivent extrêmement isolées parce qu'elles ont du mal à aller vers l'autre. Ça existe aussi, ce type d'autisme. Vous avez des gens qui ont un autisme, par exemple, qui fait qu'ils s'affolent quand on les touche ou quand on leur parle. J'ai connu ça dans l'entourage de mon ex-belle-famille, vous aviez un garçon qui était légèrement autiste, donc il supportait pas qu'on le touche, il savait pas comment se comporter quand on lui touchait l'épaule et tout. Bon, il est né dans une famille africaine, quand t'es pas tactile et que tu es dans une famille africaine, bienvenue en enfer. Vous n'êtes pas tactile, je vous mets avec des Congolais, allez c'est parti, débrouille-toi. Le gosse, il aime pas qu'on le touche. On le met dans le continent où les gens sont le plus tactiles, quoi. Il aurait pu naître en Italie aussi, ça aurait été l'enfer, quoi. Voilà. Putain, t'aimes pas qu'on parle avec les mains? Tiens, je te mets en Italie. Le pauvre. Donc voilà, vous avez plusieurs formes d'autisme. Et ce garçon, par exemple, il avait cette forme d'autisme-là, mais à côté de ça, il était tout à fait... Il s'exprimait normalement, il était tout à fait... voilà. Donc Elon Musk a un type d'autisme dont on ne connaît pas la quadrature, dont on ne connaît pas la... Donc on ne connaît pas l'étendue, est-ce que ça induit pour lui. En plus, je suis étonné, que la gauche, qui est très prompte à faire valoir la moindre petite différence, la moindre petite diversité. C'est-à-dire, en fait, les obèses, il faut absolument les protéger. Par contre, les autistes, c'est des fils de pute, il faut les abattre. Voilà. C'est assez incroyable. C'est qu'il y a une vraiment très, très large conception de ce que peut être l'exclusion et la diversité. Et alors, par contre, s'il y a une diversité telle que un milliardaire autiste, alors lui, lui, il est exclu du club des différences et de la diversité. Voilà, lui, il en fait pas partie. Donc, c'est assez drôle de voir ça. C'est assez drôle de voir la gauche s'acharner sur une personne qui est handicapée. En plus, ça soutient l'idée que un handicapé n'est handicapé que s'il est pauvre. Voilà. C'est qu'en fait, un handicapé riche devient immédiatement un fils de pute et quelqu'un de suspect. C'est-à-dire que l'handicapé doit rester à sa place. Ça ne doit absolument pas être une personne qui pourrait réussir sa vie, qui pourrait d'ailleurs mettre son handicap au service de sa vie. Non. Il faut que ce soit quelqu'un de misérable, sinon la gauche ne l'aime pas. Voilà. Je suis désolé, Elon Musk. T'aurais pas dû réussir ta vie. T'aurais dû rester une merde. T'aurais été dans les petits papiers de la gauche. Donc voilà. Donc en fait, Elon Musk, évidemment, a la vie qu'il a eu cette capacité à devenir un homme avec autant de responsabilités parce que il est différent de nous psychologiquement, il a un mode d'expression différent, il a des modalités de comportement qui sont différentes de les nôtres, et moi, l'insupportable mec de droite, fascisant, je sais pas quoi, je suis tout à fait prêt à vivre dans un monde comme ça, hein. Je veux dire, moi, je vis dans un village de 300 habitants au fin fond de l'Espagne. Bon, ben, il y a son cortège de, voilà, pour tous ceux qui vivent au Portugal, en Italie, en Grèce, dans les pays slaves, vous avez toujours ce truc qui est moins présent en France ou en Europe du Nord, avec tous les fous. Les consanguins, les pétés du casque, les muets qui ont pas appris à faire le langage des signes. Moi, j'étais traumatisé quand j'étais gosse dans mon village. Il y avait des muets, il y avait une famille de muets, los mudos, on les appelait los mudos, les muets. Et en fait, ils avaient jamais appris le langage des signes. Donc en fait, les gonzes, pour s'exprimer, ils faisaient des comme ça, tu vois. Bon, t'as 8 ans, et en plus, c'était des trucs, les mecs voulaient te donner des bonbons, ils voulaient te parler, ils voulaient t'interpeller, sauf qu'en fait, comme ils ne s'entendent pas, c'est pour ça qu'ils sont muets, ils ne s'entendent pas parler, mais ils ont du mal à moduler leur voix, donc ils poussaient des cris du Crétacé, et c'est vrai que quand t'as 8 ans, et que c'est l'été, et qu'il y a quelqu'un qui t'interpelle, en boitillant, parce qu'ils étaient assez vieux et tout, et qui fait ce genre de bruit, bon, tu te demandes si t'as le Seigneur des Anneaux, en fait. Parce que l'Espagne, est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas la Moria avec du soleil, des pesetas et des croquetas au jambon? Moi, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense que c'est un peu ça quand même. Tu vois. Theron! Hey, Theron! Los Urukayes! Coño, los Urukayes! C'est un peu ça. Voilà. Quand tu vas dans le sud de l'Europe, si tu veux, il y a toujours des tartines de médiévalitude, pas possible. Après, les Européens du Nord ont leur autre forme de médiéval. Là, par exemple, la police est en train de lâcher les chiens sur les rebeux, là, qui manifestent pour la Palestine. Bon, ça aussi, c'est médiéval. Ça aussi, c'est une conception médiévale du maintien de l'ordre. Donc, chacun son style. Mais les Espagnols, les Italiens, les Portugais, et les Cassos, on va mettre les Cassos du Sud-Est aussi de la France, là, tout ce qui est Perpignan, Toulon. Il y a toujours dans les villages, son cortège de Goliot. Bon. Ben, Elon Musk, c'est ces mecs-là, mais avec des aptitudes pour devenir millionnaire. Voilà, ce qu'il faut comprendre. Le gonze est devenu milliardaire, multimilliardaire. Et moi, je vais vous dire, avec le peu de petites célébrités que j'ai, en étant un petit personnage public, à mon échelle, à ma petite échelle, je vois déjà comment c'est dur certaines fois. Alors avec le temps, on se fait le cuir. Hein. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus inébranlable que quand j'ai démarré, que j'étais un cœur tendre. Mais si vous voulez, la sortie de l'anonymat amène son cortège de pression et en fait, vous changez de vie. Voilà, vous changez de vie, vous développez des aptitudes, vous en perdez d'autres aussi, vous êtes un petit peu moins empathique par rapport à certaines choses, vous êtes beaucoup plus pragmatique. Bon, c'est la déjà juste la vie publique transforme un homme. La vie publique plus l'argent transforme encore plus un homme. La vie publique fois XXXXX plus argent fois XXXXX, bon ben c'est en fait, vous êtes un milliardaire ultra connu. Donc je vous laisse imaginer les niveaux de pression Déjà, quand vous avez une simple vidéo de vous qui est reprise sur Internet et que les gens se moquent, c'est ce qui arrive à des personnes de temps en temps, notamment celle qui s'est fait voler de l'argent là par les brouteurs en pensant qu'elle parlait avec Brad Pitt. Bon, elle, il y a une vidéo qui est sortie sur sa gueule, elle est en PLS fini, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des trucs, elle est en détresse totale. Et pourtant, ce n'est que des petites vidéos qui ont été faites comme ça, momentanément. Moi, ça fait 10 ans qu'on me traite de nazi, qu'on balance l'adresse de mes parents. Enfin, il faut comprendre ça. Bon, ben Musk, c'est ça, fois 100, fois 1000, fois 10 000. Je suis incapable de vous donner les échelles, mais c'est impossible à imaginer pour nous. Et si vous voulez, pour devenir milliardaire, pour avoir ses aptitudes, pour encaisser cette vie-là, il faut avoir des dispositions psychologiques très particulières. Donc on ne peut pas attendre d'un milliardaire qu'il se comporte de manière normale. Quand vous voyez Jeff Bezos, quand vous voyez Zuckerberg, quand vous voyez Musk, quel que soit leur bord politique, ce sont des types qui sont particuliers. Voilà, ils sont particuliers. Sans parler à chaque fois d'handicap ou de folie, d'accord ? Mais ce sont des gens particuliers, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait comme nous. Ils n'ont pas tout à fait la même conception de la réalité que nous. Voilà, parce qu'ils sont dans une autre réalité que la majorité des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Et donc, si vous voulez, on voit bien dans le comportement de Musk qu'on a affaire à un très grand gaillard africaneur de 1m80, je sais plus combien il fait, je crois qu'il fait ma taille, il fait 1m93, je crois, ou il est plus grand encore, il fait presque 2 mètres peut-être, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un géant, il est extrêmement costaud physiquement, et on voit qu'il bouge comme un enfant. Il bouge comme un type qui est... Le Raptor en a très bien parlé de ça. Il disait que, vraiment, on voit... il montre les images dans son... C'est le réel qu'il a fait sur son compte Raptor Empereur. Sur Instagram, il fait un réel où il montre en arrière-plan dans les débats, pas dans les débats, dans les meetings, un Elon Musk très comme ça, foufou, pas conscient de son corps, qui bouge pas comme un mec de 1,90 doit bouger. Oui, parce que moi, je peux parler en connaissance de cause. Quand vous êtes grand, le moindre de vos gestes, si vous voulez, se voit, et c'est pas pareil. Voilà, quand tu fais 1,93 et que tu te mets à danser... je m'y suis risqué une fois à mon mariage, c'était une catastrophe. C'est pas pareil que quand tu fais 1m55 et que tu es moins visible. Bon, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, le on voit bien que le mec a un comportement particulier. Et alors, si ça avait été un type de gauche, on aurait présenté ça comme, oh, c'est trop mignon, regardez, malgré les entraves de son handicap, il réussit à se hisser au sommet des fortunes mondiales. Non, non. Là, comme c'est un mec qui pense mal, c'est un enculé d'handicapé. Vite, que le national-socialisme, hein, j'insiste, s'occupe de lui. Voilà. C'est toujours pareil. C'est qu'en fait, de l'intolérance de gauche à l'intolérance d'extrême droite, il n'y a qu'un pas. Hein, c'est pour ça que ça s'appelle le national-socialisme. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein, voilà. Hein. Eh oh, il y a quelqu'un. Oh, je suis tout seul dans ma tête. Et donc, du coup, si vous voulez, le truc avec ce gars-là, c'est qu'on voit bien qu'il est un peu différent et ça occasionne des gestes, des expressions et des façons de faire qui sont très peu communes et qui sont parfois peut-être mal avisées. Voilà, quand il fait ce geste et qu'il dit « mon cœur va vers vous », on voit bien qu'il est complètement dépassé par l'ampleur de ce qu'il a réalisé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce que il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, c'est pour ça que tout le monde est à balle là, en ce moment, ils sont en train de vivre une déflagration politique à la hauteur de ce qu'a connu l'Occident avec mai 68, si vous voulez. Sauf que, alors c'est rigolo parce que la gauche parle d'une révolution conservatrice. Non, non. Le conservatisme est une ligne droite qui va, si vous voulez, des premières traces de civilisation jusqu'à nos jours. D'accord ? Le conservatisme, c'est conserver les canons classiques de la beauté et du bon sens. D'accord ? Alors, ces canons classiques évoluent effectivement entre le monde antique et le monde médiéval. Vous aviez des canons classiques antiques qui ont été plus ou moins digérés par le monde médiéval, qui en a instauré de nouveaux. Puis la Renaissance est venue faire l'unification des deux canons classiques médiévaux et de l'Antiquité pour fournir en fait une notion de classicisme abouti tel qu'on l'a aujourd'hui. Voilà. Et rien ne dit que l'histoire continuera à nourrir ce classicisme. Mais la différence entre une révolution et le classicisme, c'est que le classicisme s'installe sur des siècles. Ce n'est pas une génération qui décide de quels sont les nouveaux canons, quelles sont les nouvelles normes. D'accord? C'est quelque chose qui se fabrique avec l'expérience, avec le concours de plusieurs penseurs sur plusieurs siècles, à l'épreuve de l'expérience. Et c'est pour ça que le classicisme, le réactionnariat, est quelque chose de naturel. C'est la conservation des notions qui nous ont été livrées. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces notions sont immuables, mais ça veut dire que pour les faire bouger, il faudra que les nouvelles notions qu'on veut y apporter fassent leurs preuves. Par exemple, quand le christianisme est arrivé, dans le monde antique, il y avait un paradigme antique. Le christianisme a dû faire ses preuves. Et en fait, le christianisme a démarré, donc plus ou moins, il s'est implanté 2-3 siècles, implanté de manière massive. 2-3 siècles après la survenue de Jésus-Christ, enfin, après sa mort, 2-3 siècles en Europe, parfois plus tôt dans certaines zones, et parfois plus tard dans d'autres. Et en fait, le christianisme, petit à petit, s'est installé. Et c'est ce qui était au début une révolution est devenu un canon classique parce que c'est une religion qui a fait ses preuves et qui a abouti sur de la civilisation, sur de la beauté, sur des choses qui sont viables. C'est la viabilité à l'épreuve du temps qui fonde le classicisme. Pourquoi est-ce que, par exemple, le communisme ne fera jamais partie du classicisme? Parce que le communisme a eu je sais pas combien d'années pour se faire ses preuves et il a systématiquement échoué partout où il s'est installé. Et les seules fois où le communisme réussit, c'est parce que ce n'est plus du communisme et que ça devient du capitalisme agressif, comme en Chine, par exemple. Voilà. Donc, si vous voulez, le classicisme ne se nourrit de nouveautés que si ces nouveautés arrivent à se faire une place par l'épreuve du feu, par l'épreuve du temps. Bon. Et si vous voulez, mai 68 a été une révolution, pour le coup, ce n'est pas une contre-révolution, mais une révolution. La contre-révolution, c'est nous. C'est les gens qui veulent revenir au classicisme. C'est-à-dire qu'il y a un classicisme, et tout d'un coup, il y a une contre-révolution, il y a une révolution, pardon, qui veut modifier ce classicisme, qui veut modifier ces canons antiques. Bon. Et nous, les contre-révolutionnaires, tous les gens qui sont traditionnalistes, qui sont dans des visées de retour à la tradition, aux traditions ancestrales, à la connaissance éprouvée de l'Antiquité, du Moyen-Âge, ces gens-là sont des contre-révolutionnaires. Vous êtes contre la Révolution et de mai 68 et de 1789 et du schisme protestant. Donc vous êtes des gens qui sont traditionnalistes, vous êtes des réactionnaires, des conservateurs. Bon. Et en fait, les États-Unis sont en train de mettre à mal, de détruire les idées décadentes qui avaient été, produites par la Révolution française de 1789, puis ensuite imposées au monde via la Révolution de 68, après un travail extrêmement violent et massif de marxisation et de trotskisation des universités à travers le monde, voilà. Et en fait, vous avez eu, dans les années 70, l'aboutissement de ce travail qui a été mené par des générations et des générations de trotskistes et de communistes pour infléchir la pensée occidentale, pour détruire les canons classiques de l'Occident. Bon. Et en fait, ce qui se passe aux États-Unis, c'est que vous avez une contre-révolution qui a triomphé, ce qui n'est pas le cas encore en Europe. Il y a les prémices de ça, mais ça n'a pas encore triomphé. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Le peuple américain a décidé de revenir sur, en fait, les fondements qui faisaient que leur nation était viable. Puisque leur nation, avec le wokisme, avec les idées de la révolution, donc le relativisme, la question de les idées qui sont portées par les Lumières, le pays est devenu dysfonctionnel. Donc, ce qui voulait être de nouvelles règles, le nouveau classicisme a échoué, le wokisme a échoué, et les États-Unis se sont retrouvés, jusqu'à très dernièrement, dans des positions extrêmement dangereuses, y compris pour sa survie future. La montée en épingle du phénomène Black Lives Matter, le wokisme, l'extra-perméabilité de la jeunesse américaine aux idées wokistes, tout ça a fait trembler une grande partie de l'Amérique. Et en fait, il y a eu un désir de retour à la normalité. Donc les gens ont réaffirmé leur appartenance aux préceptes bibliques aux États-Unis. Donc vous avez eu un président Trump qui est venu dire aux travailleurs, on va recorréler le bon sens à deux choses, que sont les traditions classiques du bon sens, donc la Bible dans le cas de la civilisation américaine, et les traditions du pouvoir décisionnel, qui est de redonner le pouvoir de décision aux productifs, c'est-à-dire aux workers, aux paysans américains, aux travailleurs américains, et aux entrepreneurs américains, d'accord ? Ce sont ceux-là qui doivent décider. Ce ne sont pas, si vous voulez, les fonctionnaires ou les gens qui bénéficient du système alimenté par les producteurs. Ce sont toujours, normalement, dans un état sain, ce sont toujours ceux qui fournissent la nourriture et les infrastructures qui devraient décider. Voilà. Ou alors, en tout cas, celui qui protège ça, celui qui protège ce monde-là. Puisque, par exemple, un roi n'est pas celui qui fournit le travail, c'est pas celui qui fournit, par exemple, la production, mais il a la charge de protéger, justement, ces gens-là et de leur permettre d'avoir une vie correcte. C'est pour ça que le roi ne demande pas aux gens qui produisent de faire la guerre. Ça, c'est une innovation républicaine. Le roi ne convoque pas le paysan ou l'artisan pour aller faire la guerre. Le roi a le devoir, avec l'argent que lui donnent les producteurs, de protéger les producteurs, les travailleurs et les producteurs. Voilà. C'est la grande différence avec le système républicain. C'est-à-dire le système républicain fonctionne sur l'argent qu'il prélève sur ses habitants et ensuite envoie ses habitants au massacre quand une guerre. Donc ne justifie plus le fait d'avoir le pouvoir. Voilà. Dans le cas d'une démocratie, il n'y a plus de roi. Donc le pouvoir décisionnel ne peut pas être donné en roi. Le pouvoir décisionnel doit être donné à un chef qui protège les intérêts des producteurs de richesses. Donc les entrepreneurs, les artisans, les travailleurs, les paysans. Il n'y en a pas plus. Et après, les gens qui fournissent des services qui sont très importants. Attention, les policiers, les urgentistes, les pompiers, l'éducation aussi. L'éducation, une société sans éducation, c'est une société de merde. Bon. Et donc, si vous voulez, le principe, c'est que le chef doit être au service de ces gens-là et au service de leurs intérêts, et parfois contre ces gens-là. Des fois, il arrive que pour protéger l'intérêt des gens, quand ils sont trop bêtes, il faille prendre des décisions sans consulter. Voilà. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs les grandes heures de la plupart des civilisations. Le sommet des civilisations n'est jamais un sommet démocratique. Ou alors, si c'est de la démocratie, c'est de la démocratie réservée à une élite guerrière et extrêmement corrélée au réel. Voilà. Par exemple, ce que nous montrons aux gens quand ça, c'est mon pote Sullivan qui me disait ça l'autre jour. Quand on reçoit des gens en France, on leur fait visiter quoi? On leur fait pas visiter la CAF et la mairie. On leur fait visiter le château et la cathédrale. Donc, on considère que ce qu'il y a de plus beau dans notre pays à montrer aux gens, c'est les châteaux forts et les cathédrales. Bon, de quoi est issu le château fort et la cathédrale? Ils sont issus d'un système où il y a un chef qui dit ta gueule aux lesbiennes et aux communistes et qui fait des chapelles Sixtines, des châteaux de Carcassonne et compagnie. Voilà. Et dès qu'on a un truc stimulant, qu'est-ce que c'est? C'est un Corse qui met des gifles aux gens. Tu vois? C'est qu'en fait, chaque fois qu'il s'est passé un truc un peu testo dans ce pays, c'était parce qu'il y avait un dirigeant autocratique qui disait ta gueule, en fait. Voilà. Donc, si vous voulez, le sommet d'une civilisation est corrélé à la façon et à la fréquence avec laquelle son dirigeant dit ta gueule aux segments les plus divers de la société. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le président américain actuel est un président qui dit énormément de ta gueule énormément de monde. Il a dit ta gueule aux séparatistes afro-américains, il a dit ta gueule aux LGBT, il a dit ta gueule aux pédophiles, il a dit ta gueule aux démocrates, il a dit ta gueule aux communistes. C'est un grand ta gueule, finalement. Et c'est ce qui permet après de faire des projets. Parce que quand tu perds du temps à discuter avec les gens qui devraient fermer leur gueule, en fait, ton pays, ça devient la France. C'est-à-dire que tout le monde a droit à la parole, tout le monde a droit à son petit segment de financement, et à la fin, il n'y a plus d'argent, et tout est de la merde. Voilà. Vous comprenez le truc? Donc, là, ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'il y a un régime qui se remet à dire ta gueule. Bon. Et ce régime-là, pourquoi est-ce qu'il est stimulant pour nous, qui sommes en Europe et qui sont coincés dans un régime communiste, puisque la Macronie a tous les aspects du communisme. Quand t'es à 75% de prélèvement, quand tu cumules taxes et impôts et argent qu'on a pris sur ton salaire, tu es dans un pays communiste. Hein. Les gens qui pensent que Macron n'est pas communiste, Macron est communiste. Hein. L'intégralité du spectre politique français, s'il valide la fiscalité actuelle, est communiste. D'accord ? Je vous renvoie vers les émissions du Guise et de Baptiste sur Radio Dixie qui prouvent ça par A plus B. D'accord ? Voilà, c'est pas mon rayon, je laisse s'exprimer là-dessus, puisqu'ils sont beaucoup plus pertinents que moi sur le sujet. Mais vous irez faire vos recherches tout simplement. Déjà, sachez un truc, c'est que pour vous payer, il faut reverser l'équivalent de votre salaire à l'État. Donc déjà, il y a 50% d'impôts. Si je te paye 2000 euros, j'en paye 2000 à l'État. Donc tu me coûtes 4000 euros, mais tu ne touches que 2000 euros. Sur cet argent que tu vas toucher, tu as des impôts. Et ensuite, ce que tu vas acheter avec cet argent, tu as des taxes. Donc à la fin, tu as 75%. À la fin, ton impôt, c'est 75%. C'est-à-dire quand tu arrives à créer 100 euros, tu en as 25. Voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, expliquez-moi qu'on n'est pas dans un pays communiste. Bon. Donc pourquoi ça nous fait bander? Parce qu'en fait, on voit un pays qui est en train de se sortir des turpitudes de la révolution de 68. Pour rappel, la révolution de 68, c'est les boomers, donc anarchistes, communistes, maoïstes, trotskistes, tous les trucs satanistes en histes, là, vous voyez, qui ont imposé un nouveau canon classique. Interdit d'interdire. Il faut baiser avec les enfants. Les homosexuels ont le droit de se marier. Toutes les cultures se valent. Alors moi, je pense que toutes les cultures se valent si on les corrèle à leur milieu. Après, si on les compare, si vous amenez la culture afghane et que vous la mettez en France, là, la culture afghane ne vaut pas la culture française. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. La culture française en Afghanistan n'a pas lieu d'être. Donc pour moi, les cultures, il n'y a pas de hiérarchie entre les cultures. Les cultures sont là où Dieu a voulu qu'elles soient. Et elles sont adaptées au milieu. Voilà. C'est-à-dire que la culture de la démocratie, du service, de s'il vous plaît madame, dans le désert d'Afghanistan, ça n'a jamais donné rien de bon. Voilà. Alors que la culture du talibanisme, fait que l'Afghanistan arrête d'être en guerre. Qu'on le veuille ou non. Et que les gens arrêtent d'être drogués et d'enculer des enfants. Voilà. Les talibans empêchent les Afghans de prendre la pente glissante qu'ils ont tous, c'est-à-dire de baiser des bachabazis. C'est le nom qu'on donne aux enfants qui dansent là et qu'on finit par enculer en fin de soirée. Voilà. Les talibans ont interdit ça. Vous voyez, quand il y avait les Occidentaux qui occupaient l'Afghanistan, la pratique était généralisée parce que on n'avait pas envie de mettre le nez là-dedans. Les talibans sont arrêtés, ils ont dit arrêtez d'enculer. Ils sont arrivés, ils ont dit arrêtez d'enculer les enfants. Et ils font des camps de rééducation pour les gens qui enculent les enfants ou qui fument du pavot. Ça, c'est la réalité. Donc, si vous voulez, pour l'Afghanistan, notre culture est moins adaptée que la culture locale afghane. Voilà. Par contre, je veux pas avoir un putain d'Afghan dans mon pays. Voilà. J'en ai le droit aussi, pour que ce soit très clair. Donc, si vous voulez, ou s'il a envie de vivre sa culture afghane, il se casse en Afghanistan. Il n'a pas même posé ça dans mon pays. Voilà. Donc, si vous voulez, le truc, il est là. Donc, nous vivons, en France, dans un monde où, si vous voulez, la contre-révolution a gagné. Et donc, du coup, c'est interdit d'interdire. Il faut baiser avec les enfants. Le mariage homosexuel, patati patata, je vous refais pas tout le truc. La religion, c'est de la merde. Dieu, on l'a tué. Voilà, c'est ça. Je suis Charlie, gnagnagna. Bon, voilà, c'est toute la merde qu'a amené l'esprit républicain. Bon. Et en fait, nous, on baigne dedans. On baigne dedans et certains petits poissons, et peut-être ceux qui m'écoutent, sont nés dans cet aquarium. Vous êtes né dans l'aquarium à gauchisme. Donc vous ne savez pas quel goût et quelle liberté a et donne l'eau de l'océan, en fait. Ok ? C'est pour ça qu'il y a énormément de petits Français qui disent « Ah, mais Papacito, il est d'extrême droite », parce qu'ils sont nés dans un bocal. Ils ne sont pas allés nager dans l'océan. Et comme ils ne sont pas nagés dans l'océan, ils ont une vision étriquée de leurs possibilités. Voilà. Et ils pensent que le sommet du sommet, c'est d'avoir un État qui redistribue et ils pensent que si on n'avait pas ça, on n'aurait rien du tout. On n'aurait que de la merde. Bon, ce qui est absolument faux. Hein, ça a été débunké un milliard de fois, ça. Donc, si vous voulez, on est dans un instant où on voit un peuple voisin qui nous ressemble pas mal, que sont les Américains, qui sont nos cousins du Nouveau Monde, tout d'un coup, avoir une vague d'espoir, une vague d'espérance et des possibilités qui s'ouvrent. Et en plus, là où c'est génial, et c'est pour ça que ça fait frétiller tout le monde, c'est qu'en fait, non seulement il y a une révolution conservatrice, mais elle se passe pas dans un coin perdu d'Afrique avec un dictateur qui nous régale parce qu'il lâche des punchlines. Là, c'est la première putain de puissance mondiale, en fait. C'est-à-dire que la première puissance mondiale, le gouvernail du monde, si tu veux, t'explique que les trucs de PD de gauche, c'est fini, en fait. Donc là, effectivement, ça te fait rêver. Un pays avec autant de têtes nucléaires qui commence à dire « le parti communiste, on va l'enculer, et il va se mettre à genoux », ça régale. Ça régale. On va pas se mentir, ça régale. Et puis, il y a un petit côté Warhammer 40 000. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont sié pas combien de putains de régiments de Marines qui sont en fait des putains de chapitres Space Marines. On va pas se mentir. Les États-Unis, c'est ça, en fait. C'est Warhammer 40 000. Ils ont plein de tanks, plein de porte-avions. Tu les mets sur un plateau, t'as une armée à 150 000 points. Voilà, elle est là la réalité, quoi, en fait. Et donc, ça nous régale parce qu'on se dit, tiens, il y a un faf qui arrive au pouvoir. Et en fait, il y a je sais pas combien de têtes nucléaires dans le bouton sur lequel il peut appuyer, là, tu vois, le gonze. OK ? En plus, ce qui nous fait rêver, c'est que nous, on est habitués à des politiques dégueulasses. On est habitués à des énormes boomers de merde qui sortent des mêmes écoles, qui ont les mêmes putains d'idées républicaines, qui croient en rien, qui croient pas en Dieu, qui sont des merdes, qui ont des affaires au cul parce qu'ils sont allés enculer je sais pas quel gosse à Marrakech, d'accord ? On est gouverné par ça, et tout d'un coup, les Américains, ils sont gouvernés par un gonze qui est d'origine allemande, qui est pote avec un africaneur, avec une fif de robot, d'accord ? Le mec, on dirait qu'il sort de Terminator, c'est le cousin à Schwarzenegger, d'accord ? Il vient de la même putain de vallée autrichienne, et le mec fait des danses sur YMCA, et il explique qu'il va annexer le Groenland, d'accord ? C'est-à-dire que le mec, il est pas dans la réalité, il est dans le risque, en fait. Il est dans Age of Empires. Il est en train de faire du farming, là, de fabriquer des guerriers et des bases pour aller attaquer le putain de royaume à côté qui s'appelle le Canada et le Groenland, en fait. C'est-à-dire, le mec nous amène des trucs qui avaient disparu depuis Charles Quint et Napoléon, tu vois, et Alexandre le Grand, c'est-à-dire les gros empires, le truc qui a fait l'histoire, tu vois. Nous, les Blancs, il n'y avait plus rien qui nous stimulait, tout était nul. Fallait être pote avec les égorgeurs, fallait faire le front de la foi de fils de pute d'égalité et réconciliation, là, d'aller sucer les babouches pour essayer de trouver un avenir commun qui situerait son identité graphique entre le souk d'Agrabah et une réunion du PC, parce que c'est à peu près ça le soralisme, voilà. Si tu veux, là, non, là, il nous propose pas ça. Tu vois, Trump, il est pas là en train de dire « on va se réconcilier avec l'Iran ». Non, non, Trump, il est en train de te dire « on va annexer le Canada, on va fabriquer encore plus de flingues, on va sortir des putains de tanks de nos usines et on va surtout pas se faire lécher les couilles par Poupetto, parce que c'est un truc de dégénéré de merde et que si l'Inquisition existait, tu brûlerais, en fait ». Voilà, ça qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont en train de mettre ici. Trump, il arrive au pouvoir, il fait des trucs de l'empereur dans Warhammer 40 000, en fait. Il signe des décrets pour dire « ça, c'est pédé, ça, c'est pédé, ça, c'est interdit. Toi, tu brûles. Toi, tu finis au bûcher. Vite, appelez-moi l'Inquisition. Tiens, lui, on va le mettre dans un pendoir à l'entrée de la ville. » Ouais, il fait que des trucs comme ça, en fait. D'accord ? Le mec n'est pas président de l'Amérique. C'est le nouveau bourgmestre de la cité du monde, en fait, tu vois. Voilà, il a une petite bourse comme ça, et il a des chasseurs de gueux avec lui qui pèsent des milliards que sont Musk et d'autres mecs, tu vois. Et en fait, voilà. Et en fait, l'ordre va revenir. Parce que les communistes ont foutu le bordel. Et qu'on a besoin de revenir à un peu de normalité, en fait. Donc ça régale, voilà. Voilà pourquoi ça vous régale, bande de PD. Parce que je vois plein de mecs là qui veulent pas entendre parler de Dieu, de virilité, d'être un peu déter là, qui disent « oh, la droite viriliste caricaturale, c'est quoi, Trump ? C'est quoi ?» Hein, bande de fils de pute, c'est pas la droite viriliste avec des flingues et la grosse Bible. Vous avez vu les déclarations qu'il a fait sur la Bible? Et quel est le tour de force de Trump? Il est arrivé, il a dit aux Mexicains, vous êtes cathos? Oui, ils ont répondu, si, somos catholicos. Oui, avec l'accent mexicain, c'est, si, señor Trump, somos catholicos. Il a dit, écoutez, vous lisez la même Bible que nous. Moi, je suis un protestant allemand. Vous êtes des Mexicains qui ont été évangélisés par la très lourde et la très grande hispanité. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Que ça, c'est pédé et que les lesbiennes dehors. Voilà. Voilà! C'est tout. Cherchez pas. Et il y a des fils de pute qui sont encore en mode, non, mais vas-y, mais en fait, Hugo, c'est chiant, tu mets la religion dans le truc. Attendez, on est en train de m'appeler. Deux secondes. Je mets une petite pause. Ouais, excusez-moi, il y a Biouna, là, de Tunisie, là, qui a essayé de m'appeler, là. Je suis désolé, les amis. Bref. Donc, en fait, putain, elle a cassé le délire. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que, si tu veux, le mec envoie du rêve, mais du rêve qu'on n'a jamais eu, en fait. Et ça passe par le truc biblique. J'étais en train de vous parler mexicain, il a fait pareil avec les afro-américains. Il a dit, on arrête avec cette segmentation de merde qui gangrène notre pays, d'accord, favorisé par le gauchisme, qui veut faire des ennemis partout, qui veut prendre les noirs dans un pays et leur mettre dans la tête que tous les gens qui les entourent sont leurs ennemis, faire pareil avec les mexicains. C'est ça, en fait, la gauche, c'est foutre le désordre dans les nations, d'accord. Le mec est arrivé, il a dit, stop. On arrête le bordel. Vous savez ce qui nous réunit, les gars? Les Saintes Écritures. Elles ont été écrites par Lourdieu, d'accord, il y a 2000 ans. Enfin, elles ont été écrites plus tard, mais elles ont été révélées au monde il y a 2000 ans par Lourdieu. Donc, en fait, vous savez quoi, les gars? Jésus-Christ. Et le reste, on l'encule, d'accord? Donc, si vous voulez, le gauchisme, ensuite, a fait son œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de tirer sur Trump. Comme ils arrivent jamais à rien faire qui fonctionne, ils l'ont raté. Et ensuite, t'as les grosses lesbiennes obèses qui étaient chargées que Los Angeles brûle pas et prenne pas feu, qui, en fait, se sont ratées. Donc, les gonzes sont gros allés voter Trump, en fait. Voilà, ils sont gros allés voter Trump parce que la Bible. Voilà, parce que la Bible. Commencez pas, les fils de pute de droite, là, qui sont agnostiques ou je sais pas quoi, ou qui ont des problèmes avec la catholicité, à faire vanne que la croix n'est pas le truc central de l'élection de Trump, en fait. Le mec a repris l'Amérique avec la croix. Avec la croix, d'accord? Vous allez vous le foutre dans la tête, tous les droitards de merde qui veulent pas entendre parler de Dieu, là? Vous allez vous foutre à genoux devant Christ? J'en ai plein le cul de devoir vous donner des infos, des... Putain, Dieu vous met des balayages, en fait. Il vous prouve par A plus B qu'il a raison, que c'est ça, en fait. Que les gens qui vous disent de revenir au Christ ont raison. Et qu'il y a qu'un truc qui nous sauvera, c'est ça. Les Américains sont sauvés du wokisme et de la dégénérescence parce que tout le monde pensait que les États-Unis c'était fini. Comment ils sont sauvés? Avec la Bible. Avec la Bible. Les orthodoxes ukrainiens, russes, roumains, immigrés qu'il y a aux États-Unis, ils ont dit oui, on lit la même Bible, putain. Et les Français ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas la Bible. Ils veulent Pascal Praud et Bardella, qui est pro-avortement, qui est pas pour que l'Église arrête d'être séparée de l'État. Donc c'est de la merde. Donc c'est pas des vraies solutions. Les vraies solutions, elles passeront par une rupture, par une véritable rupture avec les idéaux de la Révolution. Donc revenir au canon classique, revenir à Dieu, revenir à des sociétés traditionnelles. Voilà, traditionnelles. Et l'homme traditionnel, eh ben, vous avez des milliers de contenus YouTube qui vous expliquent ce qu'est l'homme traditionnel, pour ceux qui n'ont pas envie de lire. Et puis pour ceux qui ont envie de lire, ben, je vous invite à vous faire l'Odyssée d'Homère, la chanson de Roland... Et Cyrano de Bergerac et les Trois Mousquetaires le Comte de Monte Cristo, et voilà, pour ne citer que les plus célèbres et qui sont à la mode en ce moment. Voilà, là vous avez la personnification des idéaux de ce que doit être un homme traditionnel. Voilà. Donc nous serons dans une impasse politique tant que le peuple sera dans une impasse spirituelle. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il n'y aura de révolution que s'il y a une contre-révolution. La révolution de 1789, il y aura la fin de la révolution que s'il y a une contre-révolution. La révolution de 1789, c'est la déchristianisation des esprits. Comment combattre ça? Ben, re-christianisation des esprits. Faut prendre tout ce qu'a fait mai 68 et la révolution de 1789 et aller à l'inverse. Ils nous disent démocratie maçonnique, on leur répond royauté catholique. Ils nous disent centralisme jacobin, on leur répond régionalisme au service de la nation. Ils nous disent avortement, on leur répond la vie. Voilà. Ils nous disent soumission, on leur dit combat. Ouais, c'est tout. Il faut prendre tout ce qu'ils nous ont amené et le faire à l'inverse. Il faut rembobiner. Voilà, faut faire comme si mai 68 et 1789 n'avaient pas existé, et on reviendra à un état beaucoup plus simple. Voilà, où les criminels seront réellement punis. On aura un retour de la justice médiévale, la seule vraie, la seule qui existe sous le conseil de Dieu, et avec des punitions exemplaires. Et voilà. Est-ce que il y aurait autant de bordel à Lyon? Si à l'entrée de la ville, il y avait des pandoirs avec les kikis qui vendent du shit, qui sont en train de sécher au soleil au bout d'une corde, ou sous la pluie plutôt. Ben, il y en aurait beaucoup moins. Si les kikis prenaient prenaient une bouquelisation ou une doutertisation, on en serait où là, des problèmes, il y a la drogue et je sais pas quoi là. Mais ça serait fini depuis longtemps. Et qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est les droits de l'homme, c'est la révolution, c'est les lumières. Ah oui, mais tous les hommes ont droit à tous, mais y compris si ils cassent les couilles à la majorité. Ben non, en fait. Non, le droit naturel, c'est qu'en fait, on doit faire le choix entre l'intérêt du groupe et l'intérêt personnel. Si l'intérêt personnel va à contrario de l'intérêt du groupe, eh ben à un moment, on se retrouve seul ou en situation d'être puni. Voilà. Et voilà, ton intérêt à toi ou ta volonté à toi, c'est te vider les couilles. Donc pour soi, tu n'y arrives pas, donc tu violes. L'intérêt du groupe, c'est qu'il n'y ait pas de violeurs dans la rue. Donc à un moment, on te pend. Ou on t'écartèle, ou on te brise les os avec un pal. Voilà, le supplice du pal. Ou alors on te broie la tête, comme ils faisaient en Italie, là, avec les pressoirs. Ou on te met une poire dans le cul à écartement. Et puis, ou alors on te met sur le moulinet espagnol ou les trucs comme ça. Voilà, toutes les tortures qui existaient. Les Européens ont été très inventifs pour garder l'ordre. Vous voyez ? Donc à un moment, si on veut le retour de l'ordre, il faudra qu'on accepte que ce soit pas très joli à voir. Parce qu'on va prendre les dealers, on va les mettre en prison. Et puis de temps en temps, avec certains mecs, on fera un exemple. Voilà. Là, il faudrait ouvrir les dossiers du Corral, regarder les implications de Libération dans ces affaires et tout ça, et puis là, on fait un truc exemplaire. Le crime de viol sur les enfants au Moyen-Âge était puni d'une extrême sévérité. Donc si vous voulez voir un jour les communistes de Libération payer leurs crimes, eh ben, il va falloir accepter de revenir à une société où c'est plus les droits de l'homme qui dirigent la société, c'est le droit de Dieu. Et dans le droit de Dieu, tu n'encules pas des enfants. Voilà. Donc voilà, je suis en train de vous ramener à des trucs très terre à terre. Là, les pays qui s'en sortent, c'est parce qu'ils reviennent aux basiques. D'accord ? Ils reviennent aux basiques. On arrête de changer de sexe, on ne mutile pas les handicapés pour leur faire des mammectomies. Enfin, vous rendez compte un peu du truc ? C'est terrifiant, c'est horrible. C'est horrible. Là, on est en enfer. Là, on est en enfer et on patoche dedans. Donc à un moment, il faut que la lumière revienne, quoi. Voilà. Donc la lumière, elle reviendra comment? Je vous le donne en mille, je vais pas vous fatiguer avec ça. Mais la lumière, on sait où est-ce qu'on la trouve, depuis des siècles. Voilà. Donc à un moment, petit à petit, je sais pas, on va commenter. Je sais pas, quand on aura entendu 250 000 fois Labrience nous dire que Kairon, je sais pas quoi, c'est un problème de prénom, tout ça et tout, quand on aura entendu Bardella nous dire que oui, en fait, les Arabes sont des Arabes, bon, d'accord. Mais en fait, une fois qu'on aura dépassé tout ça, est-ce qu'on peut faire un truc civilisationnel là? Est-ce qu'on peut arrêter de sortir du commentaire et du ricanement et de faire des trucs d'éther? Qui n'empêche pas qu'on rigole. Hein. Voilà. Mais le ricanement, c'est passer 10 ans sur Internet à dire oh, encore un Suédois. Oui, non, mais c'est bon. Oui. On a compris la blague. Hein. On a compris l'oxymore. Le Suédois n'est pas un Suédois, c'est un Algérien. D'accord. On a capté. Est-ce que maintenant, on peut faire des vrais trucs? Est-ce qu'on peut sortir de la 18-25isation de la pensée politique hein, et commencer à faire des trucs d'éther? Des trucs qu'on a déjà vus dans l'histoire. Des trucs qui font appel à des choses historiques, pas du commentaire d'actualité. Voilà. Ben ça serait bien. Et pour ça, les gars, eh ben, il va falloir sortir de la zone de confort. Et c'est pas agréable parce qu'on n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Ça nous paraît. C'est quelque chose qui nous paraît. Ça nous paraît très chelou. Voilà. Et pour ceux qui me disent oui, mais la religion catholique, elle est pro-migrant, non, c'est faux. C'est le pape qu'on a actuellement. Et il y a déjà eu des papes dans l'histoire qui étaient des papes défaillants. Ben, si jamais c'est ça qui vous gêne, rentrez en orthodoxie. Voilà, devenez orthodoxe, c'est pas grave. C'est une très belle religion aussi. On a besoin de gens qui croient en Christ. Et les orthodoxes, c'est un chemin comme un autre pour aller vers le Christ. Voilà. Donc si jamais le pape vous gêne, ben, devenez, orthodoxe ou cédévacantiste. Et puis voilà. Voilà, c'est tout. Mais il y a plus d'excuses là. Il y a plus d'excuses. On le voit avec l'exemple américain. Trump a été élu parce que il veut remettre les principes bibliques au centre et par conséquent éloigner ceux de la révolution de 1789 que sont la French Theory, le marxisme et le relativisme, d'accord? Qui sont en fait des branches de la pensée franc-maçonne consacrée en 1789. Voilà. Voilà les amis. Donc je peux faire autant de podcasts que je veux. Si jamais ça n'a aucune incidence sur votre manière d'être de droite, ça n'a aucune raison d'être en fait. Moi, la portée que je veux avoir avec ce que je fais, c'est qu'à un moment, vous disiez, putain, là, je peux faire plus. Je vous en ai parlé dans les podcasts au moment de Noël. Il faut affirmer notre nombre et notre croyance en Dieu. D'accord, ça passe par des signes. Moi, je me suis fait tatouer la croix sur mes clavicules pour que quand je parle, on voit que la bouche qui parle, elle est dédiée à Dieu. D'accord. Bon, même si de temps en temps, je dis des choses profanes et que c'est pas bien. Mais vous comprenez le truc. Voilà. Moi, devant chez moi, il y a une icône de la Sainte Vierge Marie. Voilà, je porte la croix sur moi, que ce soit tatouée ou en bijoux. Il faut reprendre. La laïcité a voulu gommer la présence de la chrétienté dans l'espace public. Si on veut reprendre notre pays, le combat, il est non seulement idéologique, mais déjà pas que sur Internet. Il doit être aussi dans le réel. Voilà. Moi, l'affaire Montjoie, c'était une manière d'aller défendre la France éternelle sur le terrain. Et c'est tous à votre portée. Tous. Le terrain, c'est l'entourage, la famille, la petite crèche de Noël, la manière dont je vais amener Noël aux enfants, dont je vais leur en parler, entre autres choses. Hein. Il n'y a pas que Noël. Hein. Il y a la fête de Pâques, il y a tout ça. Les gars, on a de la marge de manœuvre quand même. On va pas tous être à attendre que Bardella et Pascal Praud fassent basculer notre paradigme civilisationnel. Vous comprenez que ça tient à beaucoup plus de choses que ça, et en même temps à des choses beaucoup plus basiques. La politique, c'est compliqué. Le Christ, c'est simple. C'est simple, en fait. Voilà. La politique déçoit. Le Christ, il déçoit jamais. Donc, si vous voulez, à un moment, il faut que ces discours vous soient de moins en moins étrangers. Je sais que quand je vous parle, vous avez l'impression d'écouter un type du Moyen-Âge vous parler. Mais justement, ça, c'est tout le travail de la gauche. Le travail de la gauche, ça a été de faire passer ces discours-là pour des discours désuets, d'un autre temps, je sais pas quoi. Mais ouais, mais quand les gens viennent en France, ils vont visiter les cathédrales. Donc, je sais pas. En fait, le discours chrétien ne va pas, mais ce qu'a laissé la chrétienté dans le monde physique, ça déboîte. Mais alors, les gauchos? Mais alors? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui fait que... Moi, ça me fait rire, les gens, quand ils viennent vous voir, là, vous faites quoi? Vous les amenez où? Vous n'avez pas visité la mairie et la CAF? Bon, ben voilà. Donc, c'est que vous reconnaissez vous-même que ce qu'il y a de plus stylé dans ce pays, on le doit au moment où il était le plus catholique. Voilà. Donc, je vais arrêter de vous gonfler avec la religion, mais c'est très, très important pour comprendre le triomphe de Trump. Voilà. Et il faut que nous soyons dans une rupture et non pas dans une... de négocier avec la révolution. Il faut qu'on soit dans la contre-révolution. Donc dans l'opposition aux valeurs de la Révolution. La Révolution, c'est la laïcité compagnie. Je ne vais pas vous refaire un truc, mais des fois, le fait de répéter, c'est ce qui fait rentrer le credo dans vos têtes. D'accord ? Et c'est très important que chacun d'entre vous soit très très bien politisé, très bien renseigné, que vous puissiez tenir ce discours. Moi, ce discours sur la République, je l'ai acquis en lisant le bouquin d'Adrien Abosy, en suivant le travail d'Adrien Abosy, « La France divisée contre elle-même », qui est un livre remarquable qui a structuré ma pensée politique. C'est là où il explique par A plus B à quel point la République est un pistolet pointé contre l'identité française. Voilà. Donc, il faut que, si vous n'avez pas envie de vous taper ce livre, ce qui est très dommage, il faut quand même que vous en appreniez un peu les bases discursives et théoriques. Voilà, comme ça, quand vous êtes dans la rue et qu'il y a un mec qui commence à défendre quelque chose, vous aurez quelque chose à lui opposer. Voilà, quand un boomer vous dit non mais la droite, non mais la religion, et après le week-end il va visiter le château de Versailles, le château de Carcassonne, les châteaux de l'Astour ou la cathédrale d'Albi. Ça, je me suis régalé. Tous les macronistes de merde et les communistes qui vont visiter les cathédrales à Tolède, tout ça et tout. Mais c'est très drôle, ça. C'est très très drôle. C'est vraiment... Il y a une putain de dissonance cognitive, en fait. Et après, ça va se taper des plats dans un restaurant, des plats traditionnels des régions françaises. Vous savez ? Donc c'est très très drôle. C'est très très drôle, tout ça. C'est très très drôle. Enfin voilà, les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Il est très très important de comprendre que le combat se fait à plusieurs niveaux. Il se fait physiquement dans le sens affirmer vos points de vue et votre régionalisme dans votre manière de parler, dans votre discours avec les autres, dans la façon dont vous décorez votre maison. Est-ce que vous mettez une croix devant le linteau de votre porte? Est-ce que vous mettez un drapeau français ou un drapeau régional à votre balcon? Voilà. Ça passe par ça. Ça passe par le commentaire, effectivement, sur YouTube, parce que la bataille, elle se fait aussi sur Internet, mais pas que. Le problème, c'est que tout est dématérialisé. Elle ne se fait pas que comme ça. Elle se fait dans la manière dont vous vous comportez avec les vôtres, avec votre famille, avec vos enfants, au boulot, ce que vous assumez ou pas. Il y a plein de mecs qui sont en mode « Ouais, putain, je suis d'accord avec toi, mais je peux pas l'assumer en public. » Ben, ferme ta gueule. Voilà. Ferme ta gueule, parce que si on fait tous comme ça, le pays est baisé. Enfin voilà les amis, je vous embrasse, c'était tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Vous pouvez me rejoindre sur Patreon, j'ai désormais un Patreon, l'adresse du Patreon est sur mon compte Instagram, Hugo Gilles Jimenez, donc sur Instagram, et il y a l'adresse de mon Patreon en description. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, vous pouvez aussi retrouver mes œuvres aux éditions Magnus. Les amis, à la prochaine, à dimanche prochain.